La raison essentielle de notre présence aujourd'hui ensemble, c'est quelles conditions de pérennité pour les radios associatives. J'invite donc à la tribune Denis Masseglia, qui est membre de la commission, ainsi que Fatia Kelouahachi, qui a été présidente de la commission culture, et les deux représentants de nos organisations professionnelles, Jean-Marc Courrèche-Chenac pour la CNRA et Sylvain Faux pour le SNRL. Une première question par rapport peut-être à cette table ronde aux coprésidents des locales. Est-ce que les radios associatives finalement demeurent plus que jamais utiles à la France, utiles aux Français, à l'heure où notre société a besoin plus que jamais d'encourager les initiatives locales pour créer du lien, encourager une vie démocratique active, lutter et éduquer contre les fake news, promouvoir les solidarités et le bien-être et le bien-faire ensemble sur les territoires de notre pays?
Alors je vais peut-être débuter, ensuite Sylvain complétera mon propos. Il y a des missions de communication sociale de proximité, ça c'est la définition des radios associatives, mais j'aime bien aussi parler d'expression citoyenne des territoires. En fait, nos radios sont les relais de ces expressions, parce que je les mets au pluriel, citoyennes des territoires. Parce que, en fait, quel autre média, quelle autre radio, donc si on doit uniquement rester dans le secteur de la radiodiffusion, offre la parole à toutes et tous. Vous pouvez franchir la porte d'une radio associative et du jour au lendemain vous retrouver avec une émission qui va évoquer un sujet que vous aimez, une thématique particulière qui est votre passion. Je pense que l'actualité récente, et là je vais parler politique, une actualité récente apporte la preuve que nos radios sont essentielles à l'expression démocratique locale. Je parle bien évidemment de la dernière campagne pour les municipales, où nos radios ont pleinement joué leur rôle pour informer les populations de ces mêmes territoires, pour organiser des débats par rapport aux services publics. Nous avons offert un temps de parole bien largement supérieur à ce qui était offert par exemple sur France 3, sur France Télévisions, où les candidats n'avaient pas seulement 5 minutes pour exprimer et pour partager leur programme, mais beaucoup, beaucoup plus avec des émissions qui duraient parce que nous avons la capacité de le faire. Et d'ailleurs, ça s'est ressenti sur les réseaux sociaux parce que, au-delà de la simple radiodiffusion où on ne parle que de l'audio, beaucoup de radios, désormais, des radios associatives, sont également présentes sur d'autres tuyaux, d'autres canaux, notamment sur YouTube, avec de la vidéo qui est présentée. Et d'ailleurs, c'est très marrant, quelque part, c'est ironique, est-ce que je dis, hein, c'est de constater que parfois, les vidéos de débats pour les campagnes, pour les municipales qui ont été organisées par les radios associatives, mais en fait, le nombre de vues dépasse, pour les radios associatives qui ont organisé ces débats, dépasse en fait le nombre de vues de certains médias qui ont d'autres moyens, supérieurs en tout cas à ceux octroyés aux radios associatives, avec parfois des différentiels de x10, x100. Donc c'est pour vous démontrer en fait toute l'importance, alors là je ne parle que de la démocratie locale, et notamment donc de la dernière campagne pour les municipales, mais si je devais parler de toutes les actions qui sont réalisées sur le terrain par les radios associatives, les radios de communication sociale de proximité, je pense qu'on en aurait pour toute la semaine.
Je pense que je ne vais pas dire la même chose que Jean-Marc, mais je pense que depuis 2 ans, on a vu l'utilité des radios associatives quand on voit les parlementaires qui se sont mobilisés en fait largement au Sénat et aussi à l'Assemblée nationale. Donc je pense parce que la plupart de ces élus sont aussi des élus locaux, en tout cas ils vivent dans les territoires, et donc à ce moment-là, ils se sont rendus compte de la force des radios associatives et qu'il fallait les défendre. Donc je pense que c'est vraiment une preuve de l'utilité des radios associatives aux assises de la radio à l'ARCOM. Il y avait Nicolas Roche, qui est secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui rappelait l'importance en cas de blackout, en cas de guerre hybride, en cas de inondation, feu de forêt et compagnie, du besoin de communication vis-à-vis des citoyens, des citoyennes. Et je pense que nous, on a un maillage territorial extraordinaire, puisqu'on est sur tout le territoire français, ultramarin bien sûr. Et donc il faut, je crois, renforcer plutôt que défaire, plutôt que dire... on va supprimer une partie du FSER ou le supprimer complètement. À un moment donné, je pense qu'il faut qu'on se rende compte de ce que ça coûtera de remettre en œuvre toutes ces radios, parce qu'un jour on en aura besoin, parce qu'aujourd'hui on en a besoin. Je pense que les radios associatives, c'est pas une histoire de nostalgie, hein, parce qu'on parle souvent des années 80 quand on parle des radios associatives. Je pense que c'est plutôt des radios du futur, des radios dont on en a besoin. Il y a quelque chose que je dis souvent, et malheureusement aujourd'hui c'est le cas, je dis quand le litre d'essence sera à 2 euros, que les gens auront moins la possibilité de se déplacer, les gens vivront en local et auront besoin d'avoir l'information au niveau local. On y est en fait, on s'en rend pas compte, mais on y est dans cette ère qui maintenant va faire que les gens vont rester de plus en plus en local. Donc en fait, il faut s'appuyer sur les radios associatives plutôt que défaire ce maillage.
On l'a entendu notamment pendant la mobilisation durant ces deux dernières années. Il y a une véritable reconnaissance des radios associatives par nos élus territoriaux, mais aussi par nos parlementaires, parce qu'il faut se le dire, s'il n'y avait pas eu nos parlementaires, peut-être que nous n'aurions pas réussi à sauver le fonds de soutien. Je pense qu'on peut remercier nos parlementaires qui savent peut-être, eux, quand on parle des radios associatives, de quoi on parle précisément. On ne va pas revenir sur l'histoire parce que je pense qu'il faut avancer. Mais il y a la ministre de la Culture aux Assises de la Radio, il y a le sénateur Lafont qui est président de la commission culture au Sénat qui a appelé à la vigilance le secteur des radios associatives par rapport au PLF 2027. Finalement, face à ces deux années de mobilisation qui, on peut se le dire, nous ont un peu épuisés quand même, mais aussi qui ont fait réagir nos parlementaires en disant « encore !» Donc peut-être qu'il y aura encore une troisième année. Comment vous appréhendez-vous le PLF 2027 ?
Bien, en fait, moi je suis plutôt optimiste, donc on est là pour ça, on est là pour faire de la pédagogie. Je pense qu'il faut recentrer un petit peu le débat. En fait, on n'est pas une ligne budgétaire, il faut mettre de l'humain, réinstaller l'humain là-dedans. Je crois que c'est le président de l'ARCOM qui disait que ça prenait du temps pour tout le monde, que en fait ça épuisait les équipes, qu'on passait énormément de temps à travailler sur le sujet du PLF pour au final en fait que ça revienne au même niveau. Donc en fait on est tous d'accord, on est tous sur le même constat. Donc je pense qu'il faut vraiment remettre l'humain, se dire qu'on est 770 radios sur le territoire, des radios locales, proximité, enfin peu importe les termes, mais en tout cas on sait de quoi on parle quand on parle de radio locale, et je pense qu'il faut, il faut que tout le monde aille dans le même sens, et aujourd'hui plutôt penser à comment on pérennise ce fonds, comment on fait pour développer avec les nouveaux enjeux, parce qu'il y a des enjeux en fait, l'année prochaine il y a une élection, d'autres élections après on verra, il y a des enjeux extraordinaires au niveau international, donc je pense qu'il faut qu'on reprenne un petit peu, qu'on se recentre sur notre métier premier, plutôt que nos équipes passent un quart de l'année à se dire comment on va faire, on va mobiliser les parlementaires. Je pense que en discutant avec Denis Masséglia tout à l'heure, je pense que vous avez aussi d'autres débats, pas mal de choses à faire. Donc si on pouvait un petit peu vous alléger là-dessus, ça serait pas mal.
Jean-Marc Courrèges, Sénac. Dans la continuité de ce qu'a dit Sylvain, je vais essayer de rester optimiste aussi. Mais par rapport déjà à tout ce que nous avons présenté, l'utilité sociale et culturelle aussi de nos radios sur les territoires, c'est quoi en fait le fonds de soutien ? C'est 35 millions d'euros. Au final, c'est par rapport au budget consacré à l'audiovisuel public, ça représente 0,88% de ce budget. Et rapporté au budget du ministère de la Culture, ça représente 0,4%. 35 millions d'euros, c'est un investissement public modeste, mais qui est à très haut rendement social et culturel. On l'a vu, je ne vais pas refaire la leçon sur tous les chantiers menés par les radios sur leur territoire. Guillaume, qui est juste en face de moi, utilise un bic quatre couleurs. Je crois que tout le monde, en fait, a un bic quatre couleurs chez soi. Imaginons que les 69 millions de Français achètent un bic quatre couleurs. Moi, je l'ai eu dernièrement chez mon buraliste à 2,60 euros. En fait, vous prenez uniquement la récupération de la TVA sur ce BIC 4 couleurs et vous payez le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Donc en fait, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, pour moi, je le résume à un BIC, un stylo BIC 4 couleurs. Donc c'est rien du tout. Et pourtant, c'est juste énorme par rapport au travail qui est réalisé. Sans cette aide, sans ce financement, avec même une baisse légère, modeste, de ce fonds de soutien, ce serait des milliers d'emplois qui seraient menacés, alors que nous sommes exemplaires en la matière. Je rappelle juste quand même que les radios associatives, c'est le deuxième employeur derrière le service public de la radiodiffusion. Et c'est le premier secteur, donc, employeur au niveau de la radiodiffusion privée. Et au contraire de nos amis de la radio privée commerciale, nous, nous continuons à créer des emplois, alors qu'au même moment, les emplois aidés n'ont cessé de baisser, ou en tout cas leur prise en charge n'a cessé de baisser. Donc nous sommes exemplaires, nous coûtons au regard du travail qui est réalisé et l'impact sur tous les chantiers que nous menons ici, si ça devait être d'autres structures qui devaient mener ces politiques publiques, cela coûterait beaucoup, beaucoup plus cher en fait à l'État. Donc au final, moi je me dis que le fonds de soutien, c'est très peu par rapport aux retombées et par rapport à la plus-value sociale, culturelle. Et je reviens toujours sur cette expression citoyenne des territoires essentielle pour une vitalité démocratique qui devrait être une priorité.
On parlait de la loi 1986. Est-ce qu'on peut préciser que le financement des radios associatives est aussi inscrit dans la loi ?
Oui, alors c'est l'article 80 dans la loi qui prévoit en fait un financement sur deux points en fait, parce que nous menons des missions de communication sociale de proximité et aussi il s'agissait à l'origine d'un fonds de péréquation. C'est-à-dire que nous avons une contrainte économique. Nous ne pouvons pas dépasser 20% de notre chiffre d'affaires en termes de recettes publicitaires. Et donc dans ce cadre-là, l'État doit garantir de nous donner les mêmes moyens que ceux consacrés à nos concurrents, services publics, mais aussi radios privées. Force est de constater que depuis 2002, nous avons décroché. Alors certes, oui, l'enveloppe du fonds de soutien a progressé, mais le nombre de radios associatives ont également progressé. Et si on regarde uniquement l'aide à l'exploitation, c'est-à-dire juste l'aide qui est mise en place pour le fonctionnement des radios associatives, bien en fait, ça a baissé en 2018 sur les tranches les plus hautes, entre 1 000 et 2 000 euros. C'est vrai que 1 000, 2 000 euros, ça ne représente rien, mais pour nous, c'est juste énorme. Donc on constate que, alors que secteur public, radio commerciale ont progressé, nous, nous n'avons pas progressé. Si on doit regarder et si on doit mettre en parallèle l'évolution, que ce soit au niveau de l'inflation, que ce soit au niveau des cotisations sociales, qu'il s'agisse de l'indice de construction qui est en fait pris en compte lorsqu'il s'agit, quand il s'agit par exemple des frais de diffusion et des prestataires tels TDF ou Towercast qui s'appuient sur l'indice de la construction pour augmenter leurs tarifs, et si on doit en plus faire le parallèle avec l'indice INSEE sur les énergies, ben en fait on est en total décalage et on n'a plus du tout les moyens que l'on avait auparavant pour faire de la radio. Et donc nous avons été très inventifs, très résilients en fait. Nous avons été les très bons élèves. Et malheureusement, ce que je regrette, c'est que peut-être on punit toujours les bons élèves alors que nous avons été exemplaires en matière d'économie.
Fatia Kedouachi, on rappelle que vous êtes députée socialiste de Seine-Saint-Denis. On vous a beaucoup suivi parce que vous avez été anciennement présidente de la Commission de la Culture et de l'Éducation à l'Assemblée nationale de juillet 2024 à octobre 2025. Vous êtes toujours membre de la Commission de Culture et Éducation à l'Assemblée nationale. Alors je vous ai vu réagir à l'illustration du BIC 4 couleurs de Jean-Marc Courrèges-Sénac. On a vraiment observé la manière dont s'est conduite la commission culture pour défendre les radios associatives. À côté du commentaire que vous pourrez faire sur le BIC 4 couleurs de Jean-Marc Courrèges-Sénac, comment vous, en tant que membre de la commission, et puis on posera la même question évidemment à Denis Massiglia, comment vous appréhendez dans le contexte global de la construction du budget 2027 avec les annonces qui sont faites par le Premier ministre notamment, comment vous appréhendez finalement le financement des radios associatives dans le PLF 2027 ?
Merci d'abord pour la présentation. Oui, alors je suis députée de Seine-Saint-Denis, aujourd'hui membre de la commission culture depuis 2022 et je l'ai présidée pendant 15 mois environ. Je vais essayer de quand même, et puis après je reparlerai du BIC 4 couleurs, je vais essayer d'expliquer comment nous on reçoit le budget. Les parlementaires, encore plus les parlementaires de l'opposition, reçoivent les bleus budgétaires au mieux en juillet, au pire en octobre. Et donc, on va faire la chasse au budget qui nous intéresse, parce qu'on ne peut pas lire 2000 pages de bleus budgétaires. Et donc, on va clairement, chacun d'entre nous, regarder les budgets sur lesquels on travaille en commission. Et donc, il y a les lignes du budget pour les associations, qui est normalement le programme 183. Et depuis deux ans, on a les budgets très tardivement. Et on découvre ce qu'on découvre, c'est-à-dire des lignes soit à la baisse, soit stables. Notre travail de parlementaire, il commence à ce moment-là. Et notre travail d'amendement, il va commencer en octobre de l'année. Clairement, les choix budgétaires, ils se font à Bercy, et ils se font dans les ministères, et nous, on reçoit au Parlement une proposition budgétaire qu'on va amender. C'est important de le dire, on ne fait pas le budget à partir de rien. On fait le budget à partir de ce qu'on nous donne. Et donc, depuis 2024, on voit un budget en très, très forte baisse pour les radios associatives. Donc on reçoit ce budget, moins 35% il y a deux ans, moins 40% l'année dernière, il me semble. On est même au-delà, 45%. Et bien sûr, c'est une onde de choc. Pourquoi ? Moi, je vais vous peut-être revenir, avant de parler du budget 2027, au budget 2025, puisque là, j'étais présidente de commission. Ça veut dire que j'avais un regard 360 sur tous les budgets de ma commission. C'est une onde de choc parce que, clairement, la radio associative, c'est le maillon le plus petit du média local, du média pur jus, du dernier kilomètre. Et j'ai reçu des messages de toute la France. Des messages qui me disaient « faites quelque chose » ou « vous êtes responsable de quelque chose ». Or, clairement, on n'était pas responsable de grand-chose à ce moment-là. Mais ce n'est pas grave. Les radios associatives m'ont écrit, les maires m'ont écrit. Vous voyez, les maires des petites communes. Les confédérations et les syndicats m'ont écrit. En fait, j'ai reçu des messages, mais même des SMS et des coups de fil de partout. Et je me suis dit, c'est qu'il y a quelque chose à jouer. Donc, on a tous fait des amendements sur le PLF pour au moins retrouver les 35 millions prévus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la France tient à ses radios associatives. Or, le Big 4 couleurs, c'est très bien, mais la réalité, c'est que tant qu'on ne sécurisera pas les budgets des radios associatives, en dehors du fonds de soutien, au-delà du fonds de soutien, qui est un fonds en réalité qui varie. C'est pas un fonds, c'est pas un pourcentage fixe. C'est un fonds qui va varier selon l'enveloppe budgétaire qu'on peut avoir. Et comme vous le savez, on est dans un déficit grave en France. Et donc, vous êtes, les radios associatives sont une variable d'ajustement, mais comme plein d'autres variables d'ajustement. Donc, soit vous démontrez, et moi c'est important que je le dise aujourd'hui, vous démontrez l'utilité de la radio associative, le besoin vital de chaque Français d'avoir une information libre, éclairée, au plus près du territoire. Soit, en 2027, ça sera rebelote, on ne va pas se mentir, parce que ce ne sont pas des gens concernés qui font les budgets, ce sont des financiers. Et je laisserai Denis me corriger ou ajouter quelque chose. Et donc, le Big 4 couleurs, pourquoi je ne suis pas d'accord ? Parce qu'on ne va pas aller chercher de la TVA un peu partout où on peut en attraper. Parce qu'en réalité, ce qu'il faut, c'est une ligne budgétaire sécurisée, comme on l'a fait avec le service public de l'audiovisuel.
Alors, comment on fait une ligne sécurisée pour le fonds de soutien ?
Il faut être inventif. Il faut être inventif. Moi, je crois très sérieusement que les présidentielles vont être en votre faveur. C'est-à-dire qu'il va falloir parler aux candidats et faire des propositions aux candidats. Une des propositions, c'est d'avoir une ligne budgétaire avec un pourcentage, en se disant, ben, on va faire un peu comme ce qu'on a fait pour le service public de l'audiovisuel, il n'y a pas si longtemps que ça, pérenniser une ligne budgétaire et que ça ne soit pas dans un fonds, parce qu'un fonds, en réalité, il est fluctuant.
Denis Masseglia, vous avez vraiment été aussi à l'écoute des radios associatives. On s'est rencontrés dans le cadre d'une audition, je crois que c'était en octobre 2024. Vous nous avez posé beaucoup de questions. On a eu un échange très productif, je trouve. Vous nous avez fait très peur de parler des questions qui étaient posées parce qu'on nous annonçait une baisse du fonds de soutien en 2024, puis une deuxième baisse en 2025. Non, ça doit être 25-26. Et peut-être la disparition même du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Vous avez aujourd'hui, je crois, une appréciation très précise du travail que font les radios associatives, de la mission essentielle des communications sociales des radios associatives sur votre territoire. Est-ce que la disparition du fonds de soutien aujourd'hui serait envisageable dans la même projection de ce qui nous avait été annoncé? Et justement, avec toute cette connaissance qui est la vôtre et votre expertise par rapport aux constructions budgétaires, comment on peut sécuriser le fonds de soutien expression radiophonique? Quelles conditions devraient être réunies pour sécuriser le fonds de soutien à l'expression radiophonique?
Beaucoup de questions et peut-être pas beaucoup de temps pour pouvoir y répondre. Je vais essayer d'avoir un propos un peu global et puis après essayer de répondre un peu plus précisément à votre question. Un propos un peu plus global. Oui, je suis rapporteur spécial sur le FSER, mais également sur le DL public, et j'ai entendu 0,88%. Et je vais vous faire une confidence, j'espère que vous ne le répéterez pas. Mais moi, dès qu'on enlève un euro à quel que soit le dispositif culturel ou de l'information, ça m'arrache le cœur. Et je ne veux pas opposer l'audiel public aux radios associatives, aux radios privées, au cinéma, à la lecture, aux jeux vidéo, à l'animation, à la presse. On a besoin de tous ces outils dans notre République pour rester une grande démocratie. Et donc, je me battrai, et je pense que je ne serai pas le seul. Je crois que je peux me permettre de t'intégrer dans le propos, ainsi que les députés qui sont ici présents. Je continuerai à me battre pour que, oui, dans un moment où le contexte budgétaire est compliqué, il faut faire des économies, mais les économies, ce n'est pas du rabot. Les économies, c'est la définition de ce qui doit être gardé et de ce qui doit être réformé. Est-ce qu'il y a peut-être des évolutions à faire dans le financement de la culture? Pourquoi pas? Et on arrivera sur la question qui est la vôtre. Mais il faut être capable d'apporter les financements adéquats pour pouvoir garder sur l'ensemble de nos territoires l'intégralité des financements associés. Sur maintenant, comment le garder? La Constitution est extrêmement claire. Le budget est annuel et voté par le Parlement. Une fois que j'ai dit ça, construire quelque chose qui soit pluriannuel, ce qui serait, je pense, une bonne action pour le FSER, mais également sur le diable public, par exemple, est quelque chose qui n'est pas constitutionnel. Il y a certes un certain nombre de dispositifs qui peuvent exister, comme le contrat d'objectif et de moyens pour l'audiovisuel, mais on voit bien que même quand il est mis en œuvre, rien n'empêche à tout moment le gouvernement de pouvoir, en fonction des difficultés financières qui sont le leur, et que chacun ici connaît, exprimer ou réduire les crédits associés. Donc peut-être que l'une des solutions, et là j'essaye de répondre à votre question, dans l'avenir serait de transformer le FSER, non pas pour qu'il soit sur une ligne budgétaire, mais peut-être qu'on pourrait s'interroger, et je ne fais pas une affirmation, c'est un questionnement, c'est un débat, à dire que le FSER pourrait se raccrocher à une structure autre que celui qui pourrait être le gouvernement, mais peut-être au niveau du CNM. Et peut-être que le CNM, dans l'avenir, pourrait être un financeur intégral du FSER. Encore faudrait-il doter le CNM des crédits associés. Et ça pourrait passer, par exemple, par un débordage des taxes affectées au CNM, qui aujourd'hui empêche le CNM de pouvoir avoir une croissance du budget. Et peut-être faudrait-il également doter le CNM d'autres outils de financement pour le sortir de ce risque budgétaire qu'est le PLF.
Au demeurant, est-ce que le fait que l'État finance directement par le fonds de soutien les radios associatives, c'est pas garantir, je dirais, l'autonomie du fonctionnement des radios associatives? On l'a vu avec les politiques régionales qui peuvent varier d'une région à l'autre. Dans les départements, c'est pareil. On voit que les collectivités ont un regard sur nos radios, même si elles le reconnaissent, le travail qu'on fait. Mais elles nous disent « Ah, mais il n'y a plus de sous ». Donc c'est là où est le problème. On avait évoqué à une époque avec le président Hervé Dujardin, et c'était, je crois, Hervé avec le cabinet d'Aurélie Fédépéti, un plan triennal qui garantissait au moins, et je crois que ça a été demandé aussi, je vais passer la parole à Sylvain Delfaux là-dessus, pour garantir au moins pendant 3 ans une installation du fonds de soutien qui nous permet de poursuivre nos missions et pas tous les ans d'être interpellés pour perdre 3, 4, 5 mois à défendre notre fonds de soutien. Est-ce que cette question-là, elle pourrait être évoquée, par exemple, avec le ministère de la Culture?
Elle peut être évoquée, mais la Constitution reste la Constitution et le budget est annuel. À moins de changer la Constitution pour mettre en place des budgets pluriannuels, aujourd'hui, quel que soit le dispositif mis en œuvre. Et on parle des lois de programmation, vous avez entendu parler, loi de programmation militaire, loi de programmation de la recherche, loi de programmation du ministère de l'Intérieur, la LOPMI. La réalité, c'est qu'à tout moment, lorsqu'il y a des difficultés financières, la trajectoire définie peut être revue. Moi, je suis même favorable, si la question est est-ce qu'il faut faire un changement de constitution pour faire des budgets plus pluriannuels, j'y suis vraiment favorable parce que je crois qu'on a besoin de créer une visibilité pour un certain nombre de secteurs de la culture, mais également de l'industrie. Quand on a des dispositifs d'accompagnement au développement, à la réindustrialisation, par exemple, c'est bien d'avoir une vision à long terme. Mais la réalité, c'est qu'en l'état actuel, avec ce qu'on fait, on n'a pas d'alternative que d'avoir un débat chaque année sur la ligne du FSER. On peut le regretter, mais vous savez, il n'y a pas de politique, ce qui se fait en détriment de la réalité des situations qui sont en face de nous.
Sylvain Delfaux.
Je voulais reprendre, je pense que Jean-Marc, tout à l'heure, en parlant du BIC ou en parlant du service public, ne parlait pas forcément de mettre une taxe, mais en fait, c'était une histoire de comparaison sur l'ensemble de nos budgets. En fait, c'est vrai qu'on pèse pas grand-chose. Sur le CNM, moi, je ne vais pas répondre, je ne suis pas un spécialiste, mais j'entends peut-être, on parlait de résilience aussi, je pense qu'on peut, et oui, nous, se mettre autour de la table avec les élus de la nation pour réfléchir à comment on va pérenniser ce fonds, parce que j'entends qu'il faut qu'on soit chaque année réinterrogé sur le budget, c'est comme ça que ça se passe, il n'y a pas de souci, mais à chaque fois, en fait, nous, depuis deux ans, on réinterroge, mais en fait, de base, il n'y a pas d'interrogation si on vous baisse le budget. Donc en fait, c'est vraiment dur à entendre de dire on va réfléchir chaque année. Donc nous, on ne demande pas de faveur, on demande de sécuriser notre fonds pour continuer à faire nos missions qui sont essentielles sur les territoires. Vous le savez vous-même, vous êtes aussi élu local. Et je pense que voilà, il faut peut-être réinventer, je ne sais pas si c'est des budgets, enfin voilà, s'il faut changer la constitution, je n'ai pas parlé de ça, mais je pense qu'on peut vraiment se réinterroger sur comment on fait pour que chaque année, on ne soit pas en octobre, parce que nous, on l'apprend en octobre. Bon, peut-être que vous l'avez avant, l'info, mais nous, c'est vrai qu'on l'a en octobre. On reçoit un SMS à 22h30 et on apprend qu'en fait, il va falloir qu'on ne dorme plus pendant quelques semaines parce qu'il va falloir se battre pour que nos radios puissent continuer à exister, juste à exister.
Une réaction rapide. Vous recevez par SMS, mais qu'on soit de l'opposition ou de la majorité, on est sur l'ordinateur en train de faire F5 pour rafraîchir le bleu budgétaire. Dès qu'on voit qu'il apparaît, on l'imprime et on regarde ligne à ligne. Et en fait, tout comme vous, du moment où on a le bleu budgétaire au moment où on finit le budget, les nuits sont extrêmement courtes. Et finalement, je dirais qu'on a une certaine proximité dans le stress de la situation qu'on doit aborder. Et je ne vais pas non plus critiquer l'administration qui fait aussi ce qu'elle peut. On est chacun dans nos responsabilités. Par contre, peut-être que l'avantage qu'on a, nous, dans la majorité que dans l'opposition, c'est que parfois on a l'occasion d'échanger avec nos ministres et l'administration. Et je me suis permis une petite phrase. Même décision aura même conséquence. J'ai dit à nos amis de Bercy que si demain ils étaient amenés à avoir une évolution au niveau du FSER, il y a de fortes chances que la conséquence soit la même d'une réaction massive et d'un vote opposé de l'Assemblée nationale.
Madame la ministre de la Culture était présente donc aux assises de la radio de l'ARCOM. Elle a donc appelé le secteur des radios associatives à la vigilance dans la construction du budget 2027. Clairement, dans son introduction, le président de l'ARCOM, Hajdari, a rappelé son soutien aux radios associatives, disant même que ce serait bien que cette année, il n'y ait pas une réduction du fonds de soutien, ce qui permettrait de ne pas mobiliser les services de l'ARCOM pour les auditions. Le sénateur Lafont a craint, même au niveau du contexte politique général, et on l'a vu dans les discussions budgétaires ces deux dernières années, où c'est très très tendu, très très difficile. Il y a un moment, il a fallu le 49-3, on a parlé d'ordonnances, et le sénateur Lafont, par exemple, craint des ordonnances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui passe si les discussions budgétaires n'aboutissent pas au vote des parlementaires?
Clairement, d'abord, il y a un précédent, puisque c'est déjà arrivé plusieurs fois. La difficulté, quand on ne vote pas le budget au 31 décembre, c'est que les fonds ne sont pas débloqués. Et donc, clairement, il y a une difficulté pour les associations, notamment qui ont du personnel, d'avoir les fonds pour continuer à payer les salaires, notamment. Cette année va être une année particulière, puisque c'est une année d'élection présidentielle. Et de toute façon, il y aura un budget pour la France. Il n'y a aucune raison qu'il n'y en ait pas. Après, par quelle méthode, ça, c'est une autre question. Moi, je crois qu'ici, on est vraiment au cœur d'un débat qui est très intéressant et qui... J'ai dézoomé par rapport aux radios. Je vais parler du Centre national du livre. Centre national du livre, lecture, grande cause nationale. On veut que les gamins retournent vers les livres. Le ministre de l'Éducation nous a rappelé que l'orthographe était au centre de tout et qu'on allait réformer le brevet, qu'il faut lire. D'accord. Il faut lire, sauf que le budget est en berne. Cette année, moins 10 millions. Et quand on demande pourquoi, on nous dit parce que en fait, ça ne marche plus le livre. Ah, ça ne marche plus, donc on ne donne plus d'argent. Et donc on entretient un cercle vicieux, en fait, au lieu d'un cercle vertueux. Et moi, je crois que les radios associatives, elles doivent prouver l'intérêt de leur existence. Il y a une preuve, et c'est comme ça que cette ligne budgétaire fera une alerte nationale si elle est baissée. Et moi, je crois malheureusement qu'elle sera peut-être baissée encore cette année et qu'il faudra faire le nécessaire. Il faudra faire un travail, nous, de parlementaires, mais vous, de lobbyistes, pour que ça n'arrive pas.
Alors, prouver l'utilité des radios associatives, il me semblait qu'on avait fait le travail depuis 2 ans, en tout cas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une connaissance plus précise du rôle qui sont ceux des radios associatives. Et c'est vrai que j'aurais remercié aussi la DGMI qui est à l'écoute de toutes nos préoccupations. On a l'occasion souvent de se rencontrer. Mais je crois que s'il faut passer une troisième année à rappeler l'utilité des radios associatives, ça peut durer très très longtemps finalement. Et très honnêtement, et on le sait tous, on a sollicité nos députés, nos sénateurs, qui nous disent encore une fois, encore une année.
Juste à propos, déjà revenir sur un sujet, quand je parle de mettre le financement du FSER au CNM, c'est pas une opinion personnelle. Vous me posez la question de quoi faire pour pas que ça soit enlevé. C'est une possibilité. Je dis pas que je suis pour ou contre. Je prime de façon très théorique ce qui peut être fait pour le protéger. Parce que j'ai pas envie non plus qu'on me dise demain que le député Massiglia souhaite que ce soit le CNM qui soit en charge du FSER. Mais voilà, je réponds à votre question précise. Sur le futur. Moi, je vais me retourner vers mes amis socialistes, mais j'ai la faible idée sur le fait qu'on va se mettre d'accord sur un PLF. Je crois qu'à quelques encablures des élections présidentielles, je vous mentirais si je vous disais on va s'entendre entre nous, on va être d'accord et le PLF va se passer de façon très modérée, très calme dans l'hémicycle. On sera tous d'accord, on va faire ça en quelques jours. C'est pas possible. Donc il n'y aura pas de PLF adopté par l'Assemblée nationale. Donc il y a 3 possibilités, les ordonnances, la loi spéciale ou le 49-3. Je ne sais pas c'est quoi le mieux parmi les 3, mais ce que je peux vous dire, c'est que le pire, c'est la loi spéciale, parce qu'il aura un impact direct sur le financement des associations de manière générale et du FSER en particulier. Entre après les ordonnances ou le 49-3, je laisse le gouvernement déterminer ce qu'il souhaite faire. Moi, je serais quand même opposé à la loi spéciale parce que je vois tous les impacts, mais j'ai la faiblesse de penser que le gouvernement ne partira pas dans cette optique-là, parce que serait-ce que les dotations aux collectivités territoriales au travers de différents dispositifs seraient aussi impactées. Donc, la suite du je ne sais pas.
On vous remercie encore, monsieur le député. On a dépassé un petit peu en temps. Est-ce que vous nous autorisez une ou deux interventions de la salle ou pas?
Mais bien sûr, on aime tellement les radios associatives ici qu'il n'y a pas de problème.
Merci beaucoup, monsieur le député. Qui veut intervenir?
Bonjour, Hervé Dujardin, président de la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est vrai que c'est fatigant de rappeler en permanence qui on est, ce qu'on fait, parce qu'on a l'impression que vous recevez des courriers qui, sur le terrain, vous disent ce qu'on fait, vous disent qui on est, et c'est compris. Mais il y a un moment où ça coince et on nous sort toujours un bon argument, parce qu'il faut faire des économies. Moi, je me dis, on ne se pose pas la question de ce que coûte une dissolution. On ne se pose pas la question de ce que coûte l'organisation des élections, qu'elles soient municipales, qu'elles soient législatives, qu'elles soient présidentielles. Et on devrait faire partie de ce dispositif-là, parce que nous aussi, on est des acteurs qui assurent la vie démocratique qui la permette, qui invite au débat. Moi, je travaille sur un territoire où aujourd'hui, je préfère ne pas me taire parce que le silence des pantoufles, on sait ce que ça va amener. Voilà. Donc, c'est clair et net que quand on dit il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, si les élections, on arrive à les prévoir, le financement des élections, c'est évident. Alors, si nous, on est des acteurs de la démocratie, de ce débat citoyen, de ce débat respectueux, d'un projet de société qui fait que, d'un seul coup, on peut être également un contre-pouvoir qui ne le serait pas uniquement à M. Pigaz, l'opportunité d'être l'anti-Bolloré. Moi, je me sens dans cette famille-là, mais j'ai pas envie de lui laisser ce privilège-là. pour être clair et net. Et je pense que de temps en temps, que d'avoir des médias également capables d'assurer des lignes éditoriales, la presse d'opinion, elle existe. Moi, quand les gens viennent, tout le monde vient parler à nos micros, tout le monde sait où ils mettent les pieds. Là, il n'y a pas de souci, quelle que soit leur couleur, on est... Voilà, on fait le travail avec tout le monde et c'est important. Ce que je veux dire, c'est que si on participe à ce débat-là, il faut qu'on nous en donne les moyens, sinon demain, il ne pourra plus se faire et on sait ce qui pourrait arriver. Moi, je suis ravi, là, au Conseil régional Hauts-de-France, a été votée l'aide, parce qu'on a une région qui nous aide, la subvention à la fédération annuelle, 78 500 euros pour 18 radios associatives. C'est un beau montant, hein, c'est un vrai engagement. Voter, y compris par des bancs qui nous étaient hostiles, il n'y a encore pas si longtemps que ça. C'est-à-dire que tout doucement, on arrive peut-être à leur faire comprendre. Donc il faut nous donner les moyens pour qu'on puisse véritablement être là où on doit être et pour assurer quelque chose qui fait qu'on arrive encore à se parler, à se comprendre et à débattre.
Merci, Hervé Dujardin. Hugues Devezin, pour CFM Radio.
Oui, en Occitanie, merci Jean-Yves. D'abord, un grand merci à l'ensemble de la représentation nationale de nous accueillir ici. Ça faisait très longtemps. Ça fait plus que plaisir. J'aurais plein de choses à vous dire, mais j'ai en fait une seule vraie question. Elle concerne votre proposition. Avant 2009, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique était localisé à l'INA. Notre banquier, c'était l'INA, puisque de taxes parafiscales, on était passé à taxes fiscales. Et la commission du Fonds de soutien était une commission indépendante qui administrait le fonds, et non pas la ministre. Le décret de 2009 a budgétisé le fonds, je ne vais pas revenir sur l'historique. Il a également fait en sorte que la commission devienne consultative, ce qui a induit un certain nombre de choses, notamment, beaucoup de gens se demandent pourquoi la subvention de fonctionnement est automatique, parce que nous ne souhaitions pas à l'époque, dans la rédaction de ce décret fait avec Mademoiselle Lemel, présidente à l'époque du fonds de soutien, qu'un ministre puisse dire oui ou non, sur quelques critères que ce soit, à une expression libre de radio. Donc on a inventé cette subvention dite dans le texte, automatique. C'est important parce que souvent, des élus nous disent « Mais comment, c'est automatique, il y a plein d'autres choses. » Et les spécialistes de la radio que nous sommes peuvent vous dire que ce n'est pas simple d'obtenir les aides du fonds de soutien, etc. Mais ce critère automatique, je tiens à le rappeler. Ce que vous proposez, parce qu'au début, je ne comprenais pas ce que vous proposez sur la localisation du fonds. C'est en fait un petit peu de revenir à, la redevance du service public. C'est un petit peu revenir à l'ancien temps de la taxe fiscale. Si je comprends bien, le fonds serait localisé au sein du CNM, pourquoi pas au CNC, entre parenthèses, et bénéficierait de fonds qui viennent d'une taxe, si j'ai bien compris. Moi, ce qui me soucie un petit peu, c'est, pour avoir traité ces affaires-là de façon assez technique, vous l'avez compris pendant un certain temps, c'est que la réglementation européenne interdit la distribution... je l'ai vécu au CNVA, hein, pour rien vous cacher. C'est-à-dire, on avait une taxe sur les cigarettes qui alimentait le FNDVA, il a fallu l'arrêter, on a été obligé de budgétiser. Je ne vais pas revenir sur tous ces éléments-là. Mais si on est sur une taxe qui alimente la musique, est-ce qu'on a la certitude que cette taxe pourra, juridiquement, alimenter des radios? J'en suis pas si sûr, notamment. Alors, il y a deux réglementations européennes, notamment sur la concurrence, le droit à la concurrence, qui fait que l'État français est obligé de demander l'autorisation de subventionner nos radios. Et il y a une autre réglementation sur la porosité des secteurs, justement liée à Auglet-Laurent. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Donc, moi, j'aimerais, si vous y avez réfléchi plus, ou si nous devons y réfléchir ensemble, ce véhicule. Il m'intéresse, il nous intéresse, mais je ne le comprends pas vraiment compte tenu de ce que nous pouvons connaître de façon technique et législative. Merci.
Je réitère mes propos, il faut être extrêmement clair. À la question de est-ce qu'on peut sortir de l'annualisation budgétaire, ma réponse est non. Et il faut trouver une autre solution qui pourrait être celle-là. Je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. Je réponds à la question de comment on sort de l'annualisation budgétaire. Et donc ce n'est pas une préconisation. C'est pas une proposition, c'est une réponse à une question précise sur l'annulation budgétaire. Après, justement, vous abordez le sujet d'une fiscalité directe qui finance une association. Là-dessus, il faut en effet en vérifier la capacité législative. Après, la construction pourrait se faire d'une manière où c'est pas une taxe directe qui finance l'événement, parce que souvent c'est une taxe qui finance tel dispositif, c'est une taxe qui est versée à une structure et une structure qui finance les radios associatives, le tout déconnecté l'une de l'autre. sur le cinéma, la TSA, la taxe sur la billetterie, elle ne finance pas directement les films, elle finance le CNC, qui lui-même, après, de façon distincte et sans corrélation, accompagne le financement du cinéma. Maintenant, la question, c'était sur la technique, pas sur est-ce que je pense qu'il faut le faire.
D'accord.
Et pas est-ce que c'est la solution qu'il faut faire. C'est pour ça que je suis revenu tout à l'heure, parce que je me suis dit, vous allez voir qu'on va me dire que c'est la proposition du député Denis Masiglia.
Mais non, c'est bien, je vous ai donné l'occasion de le préciser, vous avez remarqué.
Merci Hugues. On va passer le micro à madame la députée.
Je suis députée d'Ille-et-Vilaine, pas de Rennes, mais donc je suis le plus à l'est de la Bretagne et je ne suis pas très loin de Guichin. Je vais juste dire que vous parliez, monsieur, on en a marre d'aller expliquer, d'aller convaincre Bastille, en fait. Et je suis vice-présidente de l'Union nationale des missions locales. Ça fait plus de 45 ans que, à chaque fois, nous reprenons notre bâton de pèlerin et nous sommes obligés d'aller raconter ce qu'on fait, l'utilité de nos missions. Et en fait, c'est comme ça. Et là, en plus, nous avons eu des élections municipales avec des nouveaux élus qu'il va falloir à nouveau convaincre que nous sommes utiles autant les structures de l'insertion que les radios associatives, parce qu'il y a un vrai rôle de cohésion sociale. On a parlé beaucoup d'information et de communication, mais c'est aussi un outil d'insertion, un outil d'inclusion, c'est un outil d'expression qui permet à des gens de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi travailler sur l'autonomie. Donc oui, il faut toujours prouver l'utilité, c'est important, on défend bien que ce qu'on connaît bien. Et les réseaux d'influence, ce sont les élus aujourd'hui. Là, je suis très inquiète sur le budget. Alors en plus, maintenant, il y a des mises en réserve. Je ne sais pas si vous avez vu sur l'apprentissage. Donc voilà, on est tous très abattus par tout ça. Je crois qu'il y a une élection présidentielle qui s'annonce. Vous avez l'opportunité de rassembler autour de vous des gens qui vous soutiennent localement, mais pas seulement. Vous avez l'AMF, vous avez la MRF, vous avez l'Association des régions de France, vous avez les départements de France. Ce sont des élus qui peuvent vous soutenir, d'ailleurs qui peuvent vous soutenir aussi financièrement, mais qui peuvent vous soutenir aussi pour porter au-delà de ce que nous pouvons porter en tant que parlementaires ici pour soutenir les budgets.
Merci madame la députée. Encore une ou deux interventions très rapidement.
Oui, bonjour, très rapidement, je suis Caroline Rogard, la nouvelle déléguée générale de l'Alliance de la radio, et c'était juste pour exprimer notre soutien envers vous les radios associatives et Constance Benquet aux assises organisées notamment par Romain Lalex et par l'ARCOM qui était vraiment très intéressante. Constance Benquet a pu exprimer son soutien publiquement devant la ministre, le soutien de l'Alliance des radios privées à un maintien pérenne et à un financement stable des radios associatives. Voilà, merci.
Pardon, juste, je vais répondre très rapidement, juste pour dire qu'en fait, les équilibres sont essentiels au niveau du paysage radiophonique. C'est-à-dire, si vous baissez le fonds de soutien, vous allez déséquilibrer l'ensemble du paysage radiophonique. Parce que des radios associatives feront encore plus de publicité, ce qui fragilisera les radios commerciales.
Merci Jean-Marc Auré-Chenac. Une dernière intervention.
Et bonjour Radio Occitanie. On parle de la pérennisation et une question aussi de pérennisation de l'emploi. Nous sommes une radio en langue régionale, ce qui implique que on ne peut pas embaucher n'importe qui. Parce que pour parler une langue, il faut 6 mois à plein temps. On ne peut pas se permettre de payer quelques formations pendant 6 mois à plein temps. Là, on va se retrouver avec des salariés qui vont se retrouver en fin de fonds PEPS. Le problème, c'est que le fonds PEPS, c'est très bien, c'est vachement bien. Le problème, c'est que quand on est une radio associative, en fait, on ne peut pas vendre, finalement. Parce que le fonds PEPS pour un théâtre, pour augmenter le fait de faire des spectacles, des machins, très bien, ils vont pouvoir, à la fin, payer la personne sans avoir besoin du fonds PEPS. Nous, on fait comment ? Il va peut-être falloir aussi penser à pérenniser les emplois. Parce que comme on disait, on est le plus gros employeur des radios privées. Et c'est un petit peu compliqué pour nous.
Merci.
Très rapidement, je crois qu'il y a deux choses à retenir qui sont importantes, en tout cas pour nous, parlementaires. C'est pérenniser, oui, mais ça sera du long terme. Ce ne sera pas demain. Donc comment on fait avec notre bleu budgétaire au mois d'octobre 2026 quand on découvre que la ligne aura probablement, très probablement baissé. Peut-être pas à 30-40%. Au mieux, elle sera stable et très certainement, elle va un peu baisser. Moi, je crois qu'il faut être pragmatique et clairement, pour être pragmatique, il faut faire le travail que vous avez fait ces 2 dernières années de réexpliquer aux 577 députés l'urgence de faire un travail commun d'amendements, et au-delà de l'amendement, parce que si ce n'est pas voté, le 49-3 retiendra ce qu'il veut des amendements. Donc un travail au niveau des ministres et du gouvernement. Ce travail, on l'a fait en 2024, on l'a fait en 2025. Il faudra, nous, qu'on le refasse à l'hiver 2026, et vous, pareillement, que vous le fassiez. Puis j'aimerais dire une dernière chose sur... c'est pas pour faire de la polémique avec Denis, mais sur le Centre National de la Musique. Ils ont déjà suffisamment de problématiques à gérer aujourd'hui, notamment le plafonnement de la taxe sur la billetterie, mais pas que, certaines musiques qui ne sont pas encore rentrées dans le CNM. Donc... c'est bien de vouloir faire grossir le CNM, mais déjà, il faudrait le pérenniser, le sécuriser et trouver des solutions aussi de financement.